9h01 sur Inter. Les infos, Anaïs Feugard.
8 ans après les manifestations des Gilets jaunes, les tribunaux commencent à se pencher sur certaines violences commises par les policiers, comme ces coups de pied, ces coups de matraque portés par des CRS le 1er décembre 2018 contre des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un Burger King à Paris pour échapper aux nuages de gaz lacrymogène. Les policiers sont poursuivis pour violence volontaire. Le procès ouvre dans les prochaines minutes. Sur les images de journalistes et de vidéosurveillance, 9 CRS ont été identifiés. Et en face d'eux, des victimes qui vont venir témoigner ce matin du traumatisme, Jean-Philippe Degnaud, dont elle souffre encore aujourd'hui.
Manon a toujours la gorge serrée quand elle évoque ces 3 minutes de violence auxquelles elle ne s'attendait pas.
En fait, on s'attendait à ce qu'ils rentrent et qu'ils nous disent « Bon allez, sortez, on n'en parle plus, quoi. Sortez de là, c'est bon, rentrez chez vous. » Et c'est là que ça rentre dans l'irréel. On a tous les mains en l'air et aucune sommation, rien. Et là, c'est tout de suite coup de matraque. Et moi, je ressens que ça tape, que ça tape. Les CRS nous disaient « levez-vous, levez-vous », mais on ne peut pas. Si on se lève, on va faire quoi? On va prendre pire? On ne s'attendait pas à autant de violence.
Les CRS qui sont intervenus avaient reçu pour information que le restaurant était rempli de casseurs et qu'il fallait vider les lieux coûte que coûte. Mais tout était calme à l'intérieur. Ils auraient dû s'en rendre compte, explique Manon.
Bien sûr que la violence gratuite était là. Ok, c'était leur fin de journée. Ok, ils étaient épuisés, mais ce n'était pas une raison parce qu'on a été tapés pour rien. Avec le recul, en fait, je me rends compte que ça fait 8 ans que je suis traumatisée. Il n'y a pas de vengeance à avoir. On veut juste une reconnaissance et des excuses. Et on sait bien que tous ceux qui portent l'uniforme ne sont pas comme ça. Ce n'est pas ça leur travail. On ne veut pas dénoncer une police violente. On ne veut pas. Mais là, c'était de la méchanceté gratuite.
Pendant l'instruction, certains CRS ont reconnu avoir dérapé, d'autres pas. Il risque aujourd'hui jusqu'à 7 ans de prison.
Et le procès doit durer 3 jours. C'est l'un des sites historiques du sport automobile. Alain Prost était même venu y poser la première pierre de la nouvelle usine. Mais les jours de l'usine alpine de Renault Sport à Viry-Châtillon, près de Paris, sont comptés. Selon le maire de la ville, l'annonce devrait être faite lors d'un comité social d'entreprise jeudi. Après avoir renoncé au moteur pour la F1 en 2024, Renault avait promis un centre d'excellence, notamment pour développer le moteur à hydrogène. Mais le constructeur renoncerait à ses engagement selon le maire centriste de Viry-Châtillon qui parle de trahison. À Hong Kong, ce coup de tonnerre, 20 ans de prison prononcé contre le patron de presse Jimmy Lai, bête noire de Pékin, la peine la plus lourde jamais infligée en vertu de la loi sur la sécurité nationale, en vigueur depuis la reprise en main par la Chine du territoire hongkongais. Le fondateur du journal Apple Daily paye son positionnement pro-démocratie et critique du pouvoir chinois. C'est de fait un arrêt de mort selon Amnesty International. Jimmy Lai est âgé de 78 ans. Le Royaume-Uni annonce ce matin qu'il va intervenir sans délai auprès de Pékin. En Ukraine, 3 morts dans des attaques russes. Cette nuit, la Russie, qui dans sa guerre a recours à des combattants étrangers, parfois bien malgré eux. Et au Kenya, on s'en inquiète. En novembre, les autorités affirmaient que 200 Kenyans avaient été recrutés par Moscou pour aller sur le front. Et depuis, les témoignages se multiplient. Reportage à Nairobi de notre correspondante Alban Tirouar.
Les témoignages se multiplient au Kenya, de famille, sans nouvelles de leurs proches partis travailler en Russie. Bibiana Wangari, elle, vient d'organiser les funérailles de son fils sans avoir pu rapatrier son corps. Son aîné, Charles Wataika, est parti en Russie en octobre. Elle a appris son décès sur les réseaux sociaux.
Avant de partir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait obtenu un emploi pour travailler en tant que mécanicien sur la construction d'un camp militaire en Russie. Une fois sur place, on a continué à parler jusqu'au jour où il m'a dit qu'il allait être déployé sur le front. Chaque jour, il m'appelait en pleurant « Maman, je veux rentrer au Kenya, ce n'est pas bien ici ».
Duncan Chege est venu aux funérailles par solidarité, dit-il, de retour du front russo-ukrainien.
Cette situation me bouleverse. Je pensais aller au travail comme chauffeur. Mais sur place, après avoir reçu une formation militaire, même quand tu dis que tu ne veux pas faire ce travail et que tu veux rentrer chez toi, on te force à aller au front. Les Russes n'ont aucune humanité.
L'Ukraine vient de confirmer le décès de 3 Kenyans combattant pour la Russie. Pour tenter d'enrayer le phénomène, Nairobi a déjà annoncé avoir radié 600 agences de recrutement, mais les ONG demandent des sanctions plus sévères. À Nairobi, Alban Tiroir, France Inter.
Et puis le Mexique lui envoie 2 navires de sa marine nationale vers Cuba, chargés de vivres pour la population, de lait, de viande, de biscuits, de riz. L'île est en crise, privée du pétrole vénézuélien et sous pression de Washington. Il n'y a plus de kérosène dans les aéroports. Les compagnies aériennes ont été informées par les autorités cubaines. Escale technique de ravitaillement nécessaire ailleurs, donc dans les Caraïbes.
Anaïs Feuga, merci. Dans un instant, le magazine de la Grande Matinale.
Cette guerre n'est pas une guerre ordinaire. C'est la guerre du peuple russe tout entier.
Quelle est la vraie histoire de la grande guerre patriotique de Staline ?
France Inter, 14h50, Stéphanie Duncan.
Alors qu'en Russie, un seul récit de la Seconde Guerre mondiale est autorisé par le Kremlin, comment cette page capitale du XXe siècle a-t-elle été vraiment vécue par le peuple russe ? Je reçois l'historien Nicolas Werth.
Le fil de l'histoire.
C'est tous les jours à 14h50 sur France Inter.
Je suis de bonne humeur.
Entendez tout sans que personne ne le sache, grâce aux aides auditives quasi invisibles incognito d'Afflelou et à la beauté du son généré par intelligence artificielle.
Bien entendre, c'est rester connecté à ce que vous aimez. Alain Flelou, opticien et acousticien. Selon les modèles incognito, renseignez-vous en magasin. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
9h07, vous écoutez France Inter et vous commencez bien la journée. Allez, je déclare ouvert ce supplément magazine de la Grande Matinale. Une heure pour s'informer, débattre, sourire et faire connaissance un peu autrement. Avec Charline Von Hanecker, tout à l'heure, qui nous parle d'une démission. Laquelle ? Vous verrez bien avec Daphné Burki et sa nouvelle tête. Attention, on va chanter. Et vers 9h30, le débat du jour. On regarde ce qui se passe du côté du Washington Post. 300 journalistes licenciés. C'est l'un des quotidiens les plus puissants des États-Unis. Il appartient à Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Ma question est la suivante. Les milliardaires peuvent-ils faire ce qu'ils veulent avec les médias qu'ils rachètent ? Oui ou non ? On en discute juste après. Le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia de Villers.
Jean-Marie Gustave Le Clézio est prix Nobel de littérature. Ses interviews sont rares. Il se cache, il écrit, il voyage, ou plutôt, il voyage pour écrire. Il publie à présent un étrange et puissant petit livre chez Gallimard. Trois Mexiques, qui raconte le destin de trois écrivains mexicains à trois époques différentes. À travers eux, JMG Le Clézio dit bien des choses de ce pays qu'il connaît à merveille, mais aussi des choses de lui, de son enfance dans la guerre, de sa désobéissance, du pouvoir des mots et de cet irrépressible besoin de penser dans la langue et dans la culture des autres. Jean-Marie Le Clézio fait escale sur France Inter. Portrait numéro 86. Jean-Marie Gustave Le Clézio, bonjour.
Bonjour.
Je vous cite dans un précédent livre qui s'intitulait « Identité nomade ». Je ne voyage pas pour écrire, mais j'écris pour voyager. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est pas une fuite, c'est que j'ai besoin de bouger physiquement. Je suis d'une famille nomade. Par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tous ces gens qui ont passé leur vie à prendre des bateaux et changer de continent, changer de lieu de résidence, et par mon épouse, qui est une Sahraouia, originaire du Sahara occidental, et qui est donc, qui a dans ses gènes aussi le besoin de se dépayser, et surtout le besoin de se déplacer avec tout ce qui l'entoure. Les vrais nomades ne sont pas légers. Ils emportent avec eux des parties de leur vie, des souvenirs, des instruments de cuisine, des médicaments, des adresses, des livres. Donc, par ces deux côtés, par ma famille et par la famille de mon épouse Jbiara, je me sens très nomade.
Ça signifie que l'identité n'est pas une affaire de racines ?
Ça signifie que l'identité est héritée. On a l'identité que les parents, les proches, les amis parfois vous ont composée. Et je me sens redevable à toutes ces personnes parce que je crois qu'autrement je me sentirais coupable de bouger. Je penserais que c'est un luxe, ce n'est pas une nécessité. Et en réalité, c'est vraiment une nécessité.
Vous avez dit aussi, Jean-Marie Gustave Leclésio, vous avez dit, en général, quand j'écris, en situant mon action dans un pays, je n'y suis pas.
Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir écrire sur la mer devant un mur blanc, ou parler de...
Du Mexique. En
oui.
Étant installé.
Oui, maintenant je ne suis plus trop au Mexique, j'y vais moins qu'avant. Mais c'est donc c'est une partie composée avec des souvenirs, avec des réminiscences, avec des lectures, donc. Et puis une partie qui est produite par ce que je vois autour de moi, qui me rappelle le Mexique.
Le Mexique. Il y a quelque chose qui m'a amusée. J'ai lu dans un journal que ce livre, « Trois Mexiques », était écrit par, je cite, « le plus mexicain des auteurs français ». Et j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis demandé si vous vous considériez comme un auteur français.
Je suis un auteur dans la langue française, mais j'ai un passeport mauricien.
Oui. Donc vos parents étaient tous les deux mauriciens.
Par mes parents, par mon père, ma mère, mes arrière-grands-parents.
Votre mère était française, votre père britannique.
En fait, ma mère était aussi britannique parce que mon grand-père était britannique. Ça a été une erreur de l'état civil de lui attribuer la nationalité française. Donc en fait, je suis probablement à 100% britannique. Mais bon, j'ai plus le passeport britannique, on me l'a enlevé en 1968.
Allons bon.
Ouais. Donc j'ai aussi le passeport français parce que ma mère, grâce à cette erreur, a pu me transmettre la nationalité française. Et puis, c'était la guerre d'Algérie, on avait besoin de jeunes hommes pour aller se battre. Mmh. Donc on aimait bien avoir de jeunes
hommes. Français.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, du Mexique, qu'il est votre seconde patrie ?
Oui, oui. Patrie ou matrie, je ne sais pas.
Ah.
C'est un pays que j'ai rencontré tardivement, mais je le connaissais déjà dans l'enfance parce que j'avais feuilleté des livres, des dictionnaires qui parlaient de ce pays, dans des termes qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Un des livres que j'ai lus sur le Mexique racontait que les premiers Mexicains avaient créé leur civilisation et leur religion en observant les fourmis. Et donc, bon, quand je suis arrivé au Mexique, on m'a complètement
contredit. On racontait ça dans les années 40
Exactement. Parce qu'on voyait des statues, et ces statues portaient le symbole de la nourriture accrochée à leur nez. Et les fourmis transportent leur nourriture accrochée à leur nez. Donc, bon, c'était des fantaisies de l'époque.
Vous êtes arrivé au Mexique, en réalité, vous étiez très jeune, vous étiez un jeune militaire qui avait d'abord été envoyé par l'armée française en Thaïlande. En Thaïlande, vous dénoncez un trafic d'êtres humains, de la prostitution. Ça plaît à personne, vous êtes expulsé de Thaïlande et on vous envoie au Mexique.
Oui, oui, vous êtes bien renseigné. Oui, ça s'est passé comme ça. Et bon, on m'a d'abord menacé de me renvoyer à l'armée. Et j'ai dit, aucun problème, moi j'ai la nationalité britannique, donc je rends mon passeport, je ne suis plus rien de français, je vais m'abriter en Angleterre, vous ne me retrouverez pas. Et donc ça a été le Mexique, c'est-à-dire les antipodes de la Thaïlande, à tout point de vue. Antipodes parce que la Thaïlande était à l'époque un pays littéralement colonisé par l'armée américaine qui faisait la guerre au Vietnam.
Oui.
C'était le R&R, le Rest and Recreation, l'endroit où les soldats venaient se récréer, se divertir avec...
D'où les bordels, d'où la prostitution,
exactement.
D'où la traite d'êtres humains.
C'était assez terrible, en réalité, ce qui s'y passait. Et le Mexique, c'était l'inverse. C'était le pays radicalement opposé contre la colonisation. Colonisation, et en particulier, la prépondérance du gringo, de l'américain venant dans le pays. Et donc là, en ce moment, ils vivent des situations horribles pour eux, parce que
aujourd'hui,
le gringo s'est réveillé.
Le gringo s'est réveillé, absolument.
Donc ça, c'est terrible pour eux. Heureusement, la présidente du Mexique est une femme intéressante, très généreuse, très, très forte. Et je crois qu'elle conduit le Mexique vers une véritable indépendance économique et politique. Donc ça, c'est bien. C'est très bien. Elle a affaire à des choses terribles. Le Mexique est dans une situation terrible. La situation, ce n'est pas dû aux gringos. Enfin, c'est dû par rebond aux gringos qui consomment des drogues. Mais c'est dû à la présence sur le sol
des narcotrafiquants.
De bandidos. Il y aurait littéralement les bandidos d'autrefois, ceux qui vous attaquaient sur les chemins. Là, maintenant, ils ont des mitrailleuses, ils ont des 4x4, ils ont des hélicoptères, des sous-marins. Et ils font ce trafic de drogue qui est est une chose terrible pour le Mexique.
Alors que vous, vous avez connu le Mexique dans les années 60, c'est ça, j'imagine. Pays que vous avez fouillé dans chacun de ses recoins, et même à pied, que vous avez sillonné, vous avez marché au Mexique.
Oui, c'est un pays qui m'attire beaucoup et qui est beaucoup plus grand qu'il n'en a l'air. Si vous aplatissez les montagnes du Mexique, c'est beaucoup plus grand que les États-Unis. Parce qu'on dit ça à Maurice. Oui. On dit Maurice, c'est grand, parce que si on aplatit les montagnes, ça s'étale.
Le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Mais il y a deux choses qu'un Français n'a pas le droit d'oublier. La première, c'est que nos soldats se battent dans la neige. La seconde, c'est que d'autres Français, eux, n'ont pas de toit, n'ont pas de mur, n'ont pas de rue, n'ont pas d'eau, pas de lumière du tout, pas de gaz du tout, et que ces Français vivent et espèrent.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, vous êtes né à Nice en 1940. Et dans Identité nomade, vous avez écrit « J'ai eu la chance et la malchance de naître pendant la guerre ». Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez raconté à la fois les malheurs et les difficultés de la vie, mais aussi ses merveilles, ses joies, ses petits bonheurs.
Oui, parce qu'il n'y avait pas que les malheurs, il y avait aussi le courage, et je ne veux pas paraître excessivement féministe, mais le courage en France, c'était les femmes qui le portaient. Par exemple, ma mère, qui était seule avec ses enfants et avec sa propre mère, mon père était en Afrique, elle devait prendre son vélo tous les jours et faire quelque chose comme 15 km pour trouver des légumes, parce que Nice est une ville aride où rien ne pousse, donc il fallait chercher dans la campagne de quoi manger, des racines.
Mais c'est terrible, terrible ce que vous racontez sur les années de la fin de la guerre ou de l'immédiate après-guerre, à quel point cette Europe était sombre. Et oui. À quel point vous avez vu des vieillards mourir de faim?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était particulier aussi à la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'était un endroit aride. Il ne pousse que des casinos, des lieux de plaisir. Donc pendant la guerre, tout ça ne marchait pas. Et en revanche, les agriculteurs avaient été repoussés, chassés dans le haut des vallées. Et il fallait aller à leur rencontre, il fallait les convaincre de vous donner quelques légumes, il fallait discuter pour vivre. Et ma mère avait le sens de la discussion, donc ça se passait plutôt bien. Et à cette époque-là, il y avait quand même quelque chose de pas mal, c'est que Nice était occupée par des Italiens. Et les Italiens, ils aimaient beaucoup les femmes blondes. Donc il y avait ce rapport très ambigu
de
la soumission à l'occupant, la menace de voir arriver les Allemands, qui sont arrivés à partir de 1943. Et là, ça n'a pas été du tout pareil. Les Allemands n'étaient pas séduits par les femmes blondes. Et ma mère a pris la décision de se réfugier chez les paysans. Elle est allée dans l'arrière-pays niçois. Et là, les dernières années de guerre, entre 1943 et 1945, nous avons vécu cachés au premier étage d'une maison d'agriculteurs. Le rez-de-chaussée était occupé par des réserves de pommes de terre, ce qui était très pratique.
Caché parce que vous aviez des passeports britanniques, ce qui était extrêmement dangereux sous occupation nazie, bien entendu.
Oui, oui, les Allemands étaient à la recherche, un peu comme ce qu'on voit maintenant aux États-Unis. On voit l'ICE se promener à la recherche de tous ceux qui sont basanés, qui ne paraissent pas tout à fait américains, pour les arrêter, les expulser ou les enfermer. Ben là, c'était les Allemands qui faisaient ça. Et ils avaient chargé aussi les Français de le faire. Mmh. Les Français n'étaient pas tous innocents là-dedans. Il y a eu un préfet à Nice qui s'appelait Rivière. Il y a eu deux Rivières. Il y en a eu un bon et un mauvais. Le mauvais, c'était pendant la guerre. Et le mauvais a persécuté les Juifs et les étrangers qui étaient à Nice.
Il y a eu des rafles absolument
les Russes, atroces. On a fait arrêter des Russes en pagaille à ce moment-là. Donc,
et vous l'avez dit, Jean-Marie Gustave Le Clézio, vous avez dit que la guerre vous a laissé un souvenir très fort. Et je reviens à ces trois Mexiques. Il est donc ce livre composé de trois essais, chacun consacré à un immense écrivain. Moi, j'ai été subjuguée par le deuxième récit que vous consacrez à Juan Rulfo.
Je crois au silence. La littérature connaît des temps morts. Ces temps morts peuvent devenir des moments de silence. Au lieu de faire des essais, d'introduire ma propre philosophie de vie, ce qui est très caractéristique dans le roman, j'ai essayé d'éliminer ces aspects. J'ai donc laissé les personnages agir par eux-mêmes. L'auteur doit se détacher totalement de son œuvre.
Il est comme vous, Juan Rulfo. Quand il était petit, il y a eu la guerre. et une guerre, manifestement, d'une cruauté sans nom au Mexique.
Oui, c'est ce qu'on a appelé la révolution des cristeros. Les cristeros étaient ces paysans du centre-ouest du Mexique qui s'indignaient de voir, un peu comme les Vendéens, de voir qu'on fermait les églises ou bien qu'on utilisait les églises pour abriter le matériel et les chevaux.
Les Vendéens pendant la Révolution française.
Pendant la Révolution française. Ils ont été les Vendéens du Mexique. Et donc, il y a eu d'un côté l'armée du gouvernement mexicain qui avait des avions, des mitrailleuses lourdes et qui étaient terriblement bien organisés. Et de l'autre, ces paysans qui étaient en huarache, c'est-à-dire en chaussures, en sandales de cuir et qui dormaient par terre, qui avaient des vieilles escopettes du temps jadis ou des machettes et qui partaient à l'assaut des armes des armées gouvernementales.
Et ça a été un bain de sang.
Ça a été un bain de sang.
Bain de sang effroyable.
Oui.
Effroyable. Et vous dites que toute l'œuvre de Juan Rulfo est née de cette tragédie et que Juan Rulfo a inventé un langage qui n'appartient qu'à lui, une espèce de mélange de langue orale et de langue écrite qui est là pour faire surgir la brutalité du monde réel.
Oui, Rulfo n'a pas commencé par l'écriture, il a commencé par la photo. Il aimait beaucoup les photos. Mais dans les années 40, il a publié dans une petite revue locale de l'ouest du Mexique un conte qui s'appelait « Nos han dado la tierra », « On nous a donné la terre ». Et ça, ça a été un choc. Et Rulfo n'a jamais pris parti. Il n'a jamais dit qu'il était du côté des cristeros ou qu'il était du côté du gouvernement. Parce que comme il était enfant, pour lui, c'était impossible de choisir. Son père a été tué, vraisemblablement, par des gens qui étaient du côté des cristeros, pas du gouvernement. Donc, il n'aimait pas particulièrement les cristeros. Quand il avait une dizaine d'années, comme son père était mort, le gouvernement mexicain l'a placé dans un orphelinat. Il était obligé de passer les premières années de sa vie dans un orphelinat où la vie était très dure et très difficile. Donc, il a gardé une espèce de rancœur contre la politique, contre l'engagement politique, et le besoin de le dire. Et ce besoin de le dire, il ne pouvait pas le dire en écrivant des histoires, il pouvait le dire en inventant des situations, des personnages, et en inventant la langue qu'il parle. Et c'est là qu'est née sa littérature. Et après, quand on a voulu faire de lui un des grands écrivains classiques, il s'y refusait. Et là, même, il s'est arrêté d'écrire. Il a dit « ça suffit, ce que je dis la vérité, c'est tout. Je dis la vérité que j'ai vécue, ça ne concerne pas les autres, ça ne me concerne que moi. Et je ne parle pas de la vie, je parle de spectres, de gens qui sont morts. » Et là, personne n'a pu comprendre pourquoi il s'arrêtait d'écrire.
Est-ce que face à l'horreur humaine, est-ce que face à la guerre, la littérature sert à quelque chose ?
Je crois que oui, pour moi aussi. Alors, je ne pourrais pas généraliser. Il y a peut-être d'autres raisons d'écrire. Et il y a peut-être des raisons qui sont liées à la petite enfance, au choc qu'on a subi dans l'enfance. Dans mon cas, je ne vais pas me comparer à Rulfo, mais certainement la guerre. Moi, je n'ai rien vu pendant la guerre. J'ai eu juste j'ai été victime d'un bombardement parce que j'habitais à l'époque chez ma grand-mère au sixième étage d'un immeuble et l'immeuble a failli tomber parce que la bombe est tombée à côté et je suis tombé par terre, j'avais 3 ans et je m'en souviens encore. Donc peut-être ces chocs-là sont déterminants pour commencer à prendre un crayon et à couvrir de signes des bouts de papier pour dire ce qu'on aimerait qui existe, ce qu'on aimerait qui change.
Écrire, c'est agir ?
Oui, en vue d'un changement peut-être, se changer soi-même d'abord, parce que sinon on ruminerait, sinon on se consommerait soi-même. Donc parfois l'écriture ça sert, et si on vous empêche d'écrire, vous en mourrez.
Ça aurait été votre cas, si on vous avait empêché d'écrire ?
Ben on ne m'a pas empêché, heureusement. J'avais une grand-mère extraordinaire qui était une conteuse. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire, pour lui faire lire mes contes, pour lui faire lire mes histoires. Parce qu'elle me racontait des histoires dans lesquelles le héros était un singe, mon ami, il s'appelait le singe, et ce singe venait à bout de toutes les situations. Il n'y avait pas à manger, pas de problème, le singe allait trouver. Et donc elle racontait ça tous les soirs, et je crois que j'ai eu envie de lui rendre un peu certaines de ses histoires.
Racontez des contes à vos enfants. Un jour, ils auront un prix Nobel de littérature. Merci. Bah oui, on peut aussi.
Écoutez, merci. Vous avez bien résumé la situation.
Voilà. Merci. Merci à vous, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Merci à vous d'être venu sur France Inter. Trois Mexiques paraît chez Gallimard. Et ça donne puissamment envie de lire de la littérature mexicaine. D'autant que vous me dites, par exemple, que les œuvres de Juan Rulfo sont très bien traduites en français. Plaisir.
Merci. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Laura. When the garden flowers, baby,
Jefferson Airplay cherchait quelqu'un à aimer, somebody to love. Vous écoutez le magazine de la grande matinale et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Il y a beaucoup de démissions en ce moment.
Ouais.
Donc je vais vous parler d'une démission et je ne vous dis pas laquelle. Ouais. Il faudra rester à 9h45.
J'aimerais bien qu'on me mette sur la piste.
Vous ne voyez pas de quoi il s'agit.
Bon, ok.
Ce sera une bonne surprise.
Bonjour. Et bonjour, bonjour. Et alors, une autre surprise. Nous sommes lundi, en plein milieu de l'hiver. On est crevés. Donc, je vous propose une invitée qui s'appelle Naïka. Ma nouvelle tête, elle va vous faire du bien. C'est de la bonne musique. Il faut absolument que je vous la présente.
Et en plus, elle est magnifiquement belle. 9h29 sur France Inter. C'est le débat du jour.
On a fait un travail fantastique, dit-elle. Des collègues licenciés étaient il y a deux semaines sur le terrain à Minneapolis pour raconter la mort d'Alex Preti. Ils étaient dans des zones de guerre, sans chauffage, sans eau courante. Ces reporters ont tout donné. Et je ne pense pas que Jeff Bezos ait tout donné.
Tremblement de terre dans le paysage médiatique américain. Le Washington Post licencie 300 journalistes sur un total d'environ 800. Le directeur général vient de démissionner. Ce pilier de la presse américaine est la propriété de Jeff Bezos depuis 2013. Jeff Bezos qui affiche désormais son soutien à Donald Trump. Alors ma question est la suivante. Un milliardaire a-t-il tous les droits sur les médias qu'il rachète ? Oui ou non ?
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre avec Julia Cagé, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'économie des médias, entre autres. Et Frédéric Filloux, bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendant, spécialiste de la tech, auteur de la newsletter épisodique. Alors, lequel de vous deux se chargerait, mais comme on a un professeur sous la main, on va demander à madame la professeure de nous dire en quelques mots ce que c'est que le Washington Post pour la presse américaine et même pour la presse mondiale.
C'est un pilier du journalisme états-unien, c'est un pilier du journalisme mondial, c'est un journal qui date de 1877, qui a une histoire gigantesque, alors que tout le monde connaît forcément pour la révélation du scandale du Watergate, mais on peut le voir décennie après décennie.
Énorme scandale qui entachait le président Nixon.
Avec une enquête de terrain. Et d'ailleurs, c'est très important dans le débat qu'on va avoir aujourd'hui, parce que c'était la section locale du journalisme du Washington Post, une de celles qui va être le plus frappée par la vague de licenciements, qui avait révélé cette enquête qui avait une dimension nationale et internationale et mondiale. Ça a été pendant des décennies un symbole du journalisme de qualité, un journalisme qui était aussi un journalisme familial au départ dans son actionnariat, hein, parce que c'est la famille Graham qui pendant des décennies a possédé ce titre. Un journalisme qui a été aussi un journalisme en crise à un moment donné, d'où le rachat par Bezos en 2013. Et qui vient interroger finalement ce qui s'est passé au cours des 10, 15, 20 dernières années dans l'ensemble de la presse un peu
Mais
partout dans le monde.
Justement, Julia Cagé, est-ce que pendant des années, après le rachat par le patron d'Amazon du Washington Post, vous êtes souvent élevé dans le débat public sur la mainmise des grandes fortunes et des grands capitaines d'industrie sur nos médias, est-ce qu'on ne peut pas dire que le rachat par Jeff Bezos du Washington Post a souvent été cité en exemple comme un rachat vertueux?
Mais justement, et en fait je pense que j'ai peut-être même eu le débat à votre antenne à l'époque de l'émission Média. Moi je disais toujours, il ne faut pas prendre cette question de l'actionnariat par des milliardaires sur le thème, il y a des bons milliardaires, il y a des mauvais milliardaires.
Mais parce qu'au départ,
on me disait
un bon milliardaire.
Non, oui, et la réponse que je faisais à ça, mais regardez, Jeff Bezos, d'abord, il peut traverser la rue, se faire écraser, et peut-être que ses enfants ne seront pas aussi bien, ou sinon, il peut complètement changer d'avis. Et en fait, c'est exactement
ce qui vient de se passer.
Oui, enfin, il y a deux ans, en fait, ça commence en octobre 2024, où tout d'un coup, Bezos décide d'intervenir entièrement et de modifier la ligne éditoriale de son titre, en empêchant la rédaction qui a déjà écrit l'article en question de soutenir Kamala Harris pour l'élection présidentielle. Ensuite, tout l'hiver 2025, il va complètement refaçonner, remodeler les tribunes opinion en disant non, on ne peut plus avoir que des tribunes opinion qui vont défendre l'économie de marché. Il laisse partir des caricaturistes après avoir censuré leurs caricatures. Donc quand ça a compté politiquement, et quand ça a compté d'un point de vue industriel pour lui, parce que ça faisait aussi partie du débat, de dire, mais attendez, à un moment donné, très bien, il n'intervient pas, mais comment le Washington Post couvre Amazon? Quel poids politique ça donne à Bezos? Quand ça a compté pour lui, il a repris la main, et en un claquement de doigts, parce que c'est une personne qui possède un média, il peut mettre à terre une institution.
Frédéric Filloux, vous n'avez pas exactement la même vision aujourd'hui du modèle économique et de l'avenir de la presse.
Je suis un horrible libéral, disons-le.
Vous êtes un horrible libéral.
D'accord,
mais en attendant, là où vous êtes à peu près d'accord quand même. C'est que Jeff Bezos prête une allégeance manifeste et complète à Donald Trump.
À mon avis, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte là-dessus. La première chose, je pense que c'est un contexte économique général sur la presse. Le Washington Post, il ne faut pas l'oublier, est d'abord frappé d'obsolescence. Il est confronté à une baisse de son lectorat, il est confronté à un transfert massif des lecteurs vers d'autres médias, vers YouTube, vers les réseaux sociaux. Et puis, il y a, comme le disait Julia, cette formidable allégeance de la tech, du monde de la tech à Trump, que personne n'avait vu venir. Enfin bon, que peu de gens finalement avaient vu venir. Et Bezos en est l'incarnation. Ce qui est tout à fait stupéfiant parce que vu la puissance d'Amazon dans le domaine du commerce électronique, du cloud, etc., il était en position d'avoir un pouvoir, de pouvoir défendre absolument ce qu'il voulait. Mais il y a cette espèce d'adhésion idéologique à MAGA qui a en fait tout chamboulé. Et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui.
Alors ce qui est quand même très intéressant, c'est que néanmoins, vous rappelez qu'il y a un contexte économique qui frappe très durement le Washington Post. Et quand vous dites le Washington Post est frappé d'obsolescence, le mot est très fort, c'est-à-dire que pour vous, une entreprise frappée d'obsolescence dans son modèle, c'est logique et justifiable qu'elle se sépare d'une partie de ses effectifs?
D'abord, je pense que Le Washington Post avait été, s'est enivré de son succès que tout le monde soulignait, comme le disait Julia. Ouais. C'est vrai que moi j'étais comme tout le monde en 2015, je suis allé avec des gens des Échos à l'époque. On est allé voir là-bas, ça marchait, c'était super, ils avaient une newsroom d'enfer, etc. Et puis, ils ont mal pris le virage du numérique, et puis personne n'a... Enfin, ils ont moins anticipé que, par exemple, le New York Times, ces massifs transferts d'audience. Je pense que rien, effectivement, justifie une telle brutalité. Je pense néanmoins que 900 journalistes pour faire un quotidien, ou en tout cas un média de ce calibre, c'est... Absolument,
c'est colossal.
Absolument énorme.
C'est colossal. Attendez, parce que pour le grand public, on ne le sait pas, nous. 900 journalistes, c'est beaucoup.
900 journalistes, c'est beaucoup. Le New York Times...
1700.
Comment ?
Le New York Times, c'est 1700.
Oui,
c'est deux fois plus.
Oui, je suis d'accord, mais il y a une prime. Il y a une prime au leader.
En France, ça existe une rédaction qui a 900 journalistes.
Non, mais c'est pas le même marché.
Non, mais c'est juste pour que nos auditeurs comprennent.
C'est une grosse rédaction. Ça va être la rédaction du Monde, de West France. On va être à 500, 550 journalistes, mais sur des marchés qui sont beaucoup plus petits. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand vous faites la politique nationale française, vous devez couvrir la France. C'est 60 millions d'habitants. On parle d'un marché qui est 5, 6 fois plus gros.
Donc, juste pour vous laisser conclure.
Julia, là, je suis pas archi d'accord, mais ça restait un marché quand même local. Le Washington Post, au départ, c'est un journal local. Il y a 30 ans, vous ne le trouviez pas en dehors de Washington.
Le New York Times non plus. Hein. La nationalisation des grands titres.
Le New York Times, il y a toujours eu une dimension globale du
Donc,
du New York
si je
Times.
Résume, Frédéric Filliou, le Washington Post est quand même frappé par un contexte économique, par un contexte d'obsolescence, par un virage numérique qui a été quand même mal piloté.
Mal négocié.
Et que 900 journalistes, c'était vraiment très très lourd.
Je veux quand même dire qu'un certain nombre de chiffres. C'est-à-dire qu'en octobre 2024, avec la décision de Bezos de ne pas soutenir, enfin d'empêcher plutôt sa rédaction de soutenir Kamala Harris, ce que faisait systématiquement la rédaction du Washington Post depuis la fin des années 80, de prendre position pour la présidentielle, en quatre jours, ils perdent 200 000 abonnés. 200 000. En un mois, ils perdent en tout 250 000 abonnés. Ils perdent 10% de leurs abonnés, 10%, hein, sur un choix politique du seul actionnaire. Avec la décision de refondre les pages éditoriales, ils reperdent 50 000 abonnés supplémentaires.
Les pages éditoriales, c'est-à-dire débat et opinion. Quoi.
Débat et opinion. C'est-à-dire qu'en fait, en l'espace de même pas 6 mois, il y a 12,5% des abonnés du Washington Post qui s'en vont à cause des seules décisions d'un actionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle économique obsolescent, c'est un modèle éditorial stupide. Ce à quoi, quand même, je veux rajouter, puisqu'on dit la presse est dans un état compliqué. Le New York Times, 1700 journalistes. Les bénéfices du New York Times pour le quatrième trimestre 2024, c'est un peu plus de 100 millions de dollars. 2025, pardon, c'est un peu plus de 4 millions de dollars. Ça suffirait à couvrir les pertes du Washington Post sur l'année. Mais il y a deux choix, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est d'investir dans du contenu, d'investir dans de la qualité, de laisser les journalistes travailler en toute indépendance. Et puis il y a un choix là, qui consiste à changer complètement la ligne éditoriale, à aller contre sa rédaction, donc contre son lectorat.
Frédéric Liu, vous n'êtes pas tout à fait d'accord dans l'analyse des choix qui sont faits au fur et à mesure où on découvre...
Moi, je constate simplement qu'un journal qui fait 300 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui perd 100 millions de dollars par an, c'est absolument pas tenable. Ma conviction à moi, c'est qu'un journal, quel que soit... Enfin, un journal, on s'entend sur la définition, c'est-à-dire un média qui va être essentiellement numérique, puisque sur les 12 millions d'abonnés du New York Times, il y en a 95% qui sont digital seulement, numérique seulement. Moi, ma conviction, un journal qui... Les médias sont toujours en mutation, c'est qu'il doit ajuster ses ressources au périmètre de marché qu'il peut servir de façon raisonnablement profitable. Raisonnablement profitable. Et c'est ça qui implique, c'est ça qui implique des choix. Moi, franchement, que la section sport du Washington Post disparaisse, bon, je ne suis pas fan du journalisme sportif en général, je pense qu'on considère que c'est rarement terrible, c'est extrêmement corrupteur, sauf quand c'est titré...
C'est extrêmement corrupteur, le journalisme sportif, c'est pas le débat.
Mais sauf quand c'est traité sous l'angle...
C'est drôle et ça mériterait un débat.
Oui, ça mériterait un débat. Sauf quand c'est traité sous l'angle sociétal, comme les grandes années à Libération. Mais je veux dire, il y a des ajustements à faire. Encore une fois, oui, la brutalité...
Je suis pas du tout d'accord avec vous, le sport, c'est de l'information.
Possible.
Enfin, je veux dire, je pense que toutes les grandes rédactions dans le monde, pas couvrir
les Jeux Olympiques.
C'est pas grave.
En Italie, non.
On s'en fout.
Ah bon, bah, vous avez regardé la cérémonie d'ouverture, vous avez regardé le poids politique mis par Meloni, vous avez regardé le fait qu'il y avait... des policiers de l'ICE qui sont venus protéger les délégations sportives
Oui,
états-uniennes.
Oui, j'ai vu ça.
C'est pas politique, ça? C'est pas intéressant. Non, bah moi, c'est je politique, m'en fous pas. Moi,
être,
je trouve
ça, ça peut être traité sans un service sport de 100 personnes.
De la géopolitique.
Et alors, attendez,
mondiale.
Je vous pose une autre question quand même, Frédéric Filloux. Pourquoi est-ce qu'un journal doit être raisonnablement profitable quand il appartient à quelqu'un qui est multimilliardaire et qui, pendant
Parce
ce temps-là, n'a aucun problème à mettre 75 millions de dollars pour produire un documentaire sur Mélania Trump.
Mélania Trump, oui, c'est ça.
Et ça sera sans doute une entreprise.
En matière de corruption, c'est pas mal, ça.
Oui, une entreprise qui sera pas très profitable d'un point de vue économique.
Ah bah l'histoire de Mélania Trump, oui, c'est carrément un transfert de prévarication. Mmh. Donc c'est non, moi je pense que ça doit, un média doit être profitable parce que c'est la clé de son indépendance. Y compris vis-à-vis de son actionnaire. Je pense qu'il faut arrêter. Moi, j'ai connu ça toute ma vie. Quand j'étais à Libération, c'était Jérôme Seydoux qui était l'actionnaire de Libé. La rédaction disait, ah non, mais Seydoux, il a les poches pleines. Il peut vraiment remettre ce qu'il veut. Non! Je pense qu'à un moment, y compris en termes de crédibilité vis-à-vis de l'actionnaire, il faut qu'un journal gagne un petit peu d'argent, soit marginalement profitable. Pas plus, pas moins.
Julia Cagé.
Non, mais alors on est d'accord sur le fait qu'un journal doit gagner de l'argent. Moi, par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que la bonne solution, c'est d'être possédé par un milliardaire aux poches pleines. Et d'ailleurs, si le journal peut être à l'équilibre et gagner de l'argent, mais ça montre bien qu'il n'a pas besoin d'un
actionnariat. Je précise juste, puisque vous preniez en exemple le New York Times. Il y a un moment, la famille qui possède le New York Times depuis des décennies, voilà, les Sulzberger, eux, ils ont eu les poches vides et ils ont été obligés de faire appel à une grande fortune pour remplir le journal.
Non, c'est super intéressant. J'adore l'exemple du New York Times parce que justement, ça va dans le sens de ce que je pense et qu'il faut qu'il y ait une diversité de l'actionnariat et des droits de vote. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont introduit en bourse et que Slim est rentré au capital? Ils ont créé deux types d'actions. Ils ont créé des actions de classe A qui ont une action, un vote, et des actions de classe B. Une action, 10 votes. Ils ont donné les actions avec plus de pouvoir politique à qui? Un, aux héritiers de la famille, deux, aux journalistes. C'est-à-dire que ce sont les journalistes et les salariés du New York Times qui ont aujourd'hui des actions qui leur rapportent beaucoup plus de droits de vote. Ce qui fait que Carlos Slim, bien qu'étant l'actionnaire majoritaire en termes de part de capital, est complètement minoritaire en termes de droits de vote. Il a amené de l'argent, mais ceux qui ont aujourd'hui la majorité des droits de vote pour le New York Times, ce sont les salariés, les journalistes. Et ça, c'est un modèle qui est un modèle vertueux. C'est-à-dire que moi, après tout, j'ai pas de problème si des milliardaires sont prêts à sponsoriser un média. Mais il faut pas que ça aille avec un pouvoir politique qui est prédominant. Soit ils le veulent pas, mais dans ce cas-là, on les laisse pas rentrer et finalement avoir la main sur l'avenir d'un des piliers de la démocratie. Le problème, au-delà du fait que moi je suis pas d'accord de dire c'est très bien de pouvoir licencier des gens du jour au lendemain, les faire partir sans
c'est pas
avis.
Ce que j'ai dit, je vais
non, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais sur le sport, c'est pas grave. Non, au-delà de la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire au-delà du fait de si vous faire partir 300 personnes ou pas, mais ça a été fait d'une mauvaise manière, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médias aujourd'hui qui ont des rédactions importantes, qui font du journalisme d'investigation, et que ça se reconstruit pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas donner à une seule personne
la possibilité de
décider. Je voudrais parler de la philanthropie, parce qu'il y a des exemples de philanthropie qui fonctionnent très bien. L'exemple pour moi qui est le plus intéressant, c'est un média qui s'appelle ProPublica aux États-Unis, qui a été créé en 2007 à l'initiative d'un banquier américain, d'un milliardaire pour le coup américain, qui venait de vendre sa banque locale à Bank of America, et qui est approché un journaliste, un éditeur, je termine en 3 minutes, du Wall Street Journal, qui lui a dit « Voilà 10 millions de dollars, construisez un média. » Aujourd'hui, ProPublica, c'est 150 journalistes, ça fait 64 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, ça dégage une vingtaine de millions, et ça a une réserve de 100 millions de dollars, c'est-à-dire 2 ans de fonctionnement. Et ça marche en toute indépendance. Pourquoi? Parce que le milliardaire en question n'avait pas l'agenda. Il a simplement eu comme agenda de faire un bon journal équilibré, confié à un professionnel.
Et ben voilà.
Et ben voilà.
Je pense qu'il y a un deuxième débat à faire. Est-ce que aujourd'hui un média c'est encore un pilier de la démocratie? Parce que vous appuyez là-dessus, Julia Cagé. Pour vous c'est encore un pilier de la démocratie?
Ah, complètement, oui.
Complètement. Et ben là-dessus on est d'accord.
On est totalement.
Et ben je vous remercie tous les deux, Frédéric Filloux et Julia Cagé. Vous restez avec nous juste après la musique. Je suis Charline Vanhoenacker, Daphné Burki.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur? Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? quel sauvage continent. Mais comment deviner qui ira en enfer, ou qui paiera le prix, qui paiera le plus cher. C'est la mélancolie, les avis diffèrent. Certains voient tout en gris, certains deviennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent, quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent. On éteint à la lumière qui un jour brillait. On ne peut rien y faire. Mais comment deviner que nous serions en guerre, qu'il faudrait se quitter, ne plus revenir en arrière. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent, quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent, quel terrible univers. Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent.
Poussière d'or, c'est le sublime album de Stéphane Escher que j'ai adoré. Et c'est Valentine Chedebois, notre très chère programmatrice musicale, qui a choisi cet extrait, Sauvage Continent. Il est 9h46, vous écoutez France Inter. J'ai la joie de retrouver et Charline et Daphné Burki en ce...
Youhou.
Charline, ma chère, oui. Charline, vous revenez ce matin sur la démission qui a marqué la fin de semaine, et je me demande bien laquelle.
Bah, dans les couleurs de France Inter, s'il y a bien une démission dont tout le monde parle, c'est celle-là. Hein. Moi, mon téléphone a chauffé tout le week-end. Hein. Tu t'y attendais, toi, à la démission de Jack Lang? Ouais, je ne vais pas parler ici de l'autre démission que vous avez en tête. Même si ça a surpris tout le monde que Sonia Mabrouk quitte CNews. Mais Jack Lang, donc, si c'est pas malheureux d'être contraint de démissionner à 86 ans, dans la fleur de l'âge. Jack Lang, toujours prompt à rendre hommage aux gens célèbres qui nous ont quittés. Et là, quand Epstein est mort, ben, on ne l'a pas entendu. Ah ben c'est suspect. Donc quand ton nom apparaît 667 fois dans les documents, il faut vraiment être très fort en théâtre pour dire que tu connais pas cette personne. Qui peut bien être cette Daphné qui apparaît 600 fois dans mes SMS? Je ne vois pas.
Mais ça va
une
pas.
Collègue peut-être. Pour se défendre, il s'est fait inviter sur tous les plateaux. Alors pas ici, hein, parce que quand il a demandé à passer dans Nouvelle Tête, là on a dit stop.
Non,
hein.
Ça va.
Même si on a tous bien remarqué qu'il avait une nouvelle tête. Oui, non, mais elle me pousse. Non, mais d'accord. D'ailleurs, on est d'accord que si Jack finit sa carrière là-dessus, c'est un coup dur pour la France, pour la culture et surtout pour l'industrie du Botox. Alors, sur le fond, sa défense est maladroite. On voit partout cette photo avec Epstein devant la pyramide du Louvre et lui, il dit « Je ne connaissais pas tant que ça, ce monsieur. » Et que fait cette pyramide sur cette photo alors que nous ne sommes pas en Égypte? Ça doit être un montage. Non, là où je crois à la sincérité de Jack, c'est quand il jure que depuis qu'Epstein est mort, il lui a plus jamais parler. Mais regardez, il ne répond plus à mes mails. Vous voyez bien que le lien est rompu. Alors lui, il ne voit pas où est le problème. Il dit qu'il ne faut pas lire les agissements d'hier avec les lunettes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec Epstein, il faut séparer l'homme du pédocriminel. Bah, nous, on pense qu'il faut séparer le pédocriminel des gosses, mais après, moi, j'ai des lunettes d'aujourd'hui. En tout cas, il aura vraiment fallu le pousser pour qu'enfin il démissionne. Jusqu'à samedi, il était là. Allez, avec un petit peu de chance, toute la rédac de Mediapart va choper la gastro en même temps. Mais non, la presse a maintenu la pression. Sur Libé, ils ont écrit « La folle semaine qui a poussé Jack Lang à démissionner ». Manquez le sous-titre, ce qui s'est passé mardi va vous surprendre. Alors l'Institut du Monde Arabe, c'est vraiment mieux gardé que le Louvre. Hein. Sinon, on aura envoyé des braqueurs voler la momie, mais non. Et maintenant, on découvre tous les liens d'intérêt, les services rendus, la complaisance. Par exemple, Jack Lang avait pris l'habitude d'emprunter la voiture avec chauffeur du milliardaire. Epstein, c'est aussi le blablacar pour les riches, en fait. Et Epstein a aussi filé de la thune à la fille de Jack Lang pour l'aider à élever ses deux enfants. Et donc là, Epstein, c'était aussi la CAF.
Il y a un mail de Jack Lang qui veut utiliser la bagnole et qui dit « Puis-je encore abuser de vous ?» Et déjà, il demande le consentement avant d'abuser, lui. Et aujourd'hui, il justifie « Oui, mais ça faisait faire des économies à l'Institut du Monde Arabe. Mais oui, pour emmener mamie à l'hôpital, pensez à emprunter la camionnette de Fourniret, comme ça la sécu économise un taxi conventionné. » Vu le nombre de services qu'Epstein a rendu à Lang, alors que c'était même pas son ami, j'ose pas imaginer la générosité de ses vrais amis. À son anniversaire, ça doit être fou. C'est « Oh, mais merci pour ce poste. Oh, j'avais encore jamais dirigé cette institution publique. Et c'est 4 ans de mandat renouvelable sans limite d'âge. Oh, vous êtes vraiment fous, les amis. Merci. » Conclusion, Jack Lang le crie haut et fort. « Je suis blanc comme neige. » Bah ouais, Jack, mais tu sais qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la neige, elle fond. Et ça fait apparaître ce qui se cache sous le beau manteau blanc.
Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Et il est 9h50, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête ce matin s'appelle Naïka. Elle est artiste et elle sort son premier album. Alors je me suis penchée sur son travail parce que quand on m'a parlé d'elle, on m'a dit elle est à part et partout à la fois. Alors j'ai découvert l'histoire d'une enfant unique, trimballée de pays en pays dans les valises de ses parents, qui paraît-il ne répondait que si on lui chantait. Alors certains diront, oh, logistique hyper compliquée quand même. Bon, moi, j'étais intriguée, forcément. J'ai écouté son album au milieu de notre hiver et j'ai eu l'impression qu'un rayon de soleil passait par mes oreilles. Elle appelle ça de la world pop, c'est-à-dire des rythmes caribéens, des couleurs d'Afrique, de la pop, du R&B, un disque hyper riche, hyper dansant qu'il faudrait résumer en un mot, comme on fait chaque matin, vous savez, un seul mot. Et franchement, je suis nulle à ce jeu. Enfin, je suis très forte pour résumer ma nuit de samedi. Ce serait ruine. Mais là, non. Ce matin, je suis en place et cet album, il a trop son mot, il s'appelle Ecclesia. You've got angels, you've got devils, I go somewhere in the middle. You got stable and unstable, me I dance on top of tables. Bonjour Naïka, bienvenue sur France Inter.
Salut Daphné.
Vous vous foutez de moi avec le début de cet album parce que vous avez un accent très français alors que vous parlez 3 langues et demie.
Oui, 3 et demi, je vais dire.
3 et demi. Qu'est-ce que c'est que cet accent français que vous nous collez sur cette chanson?
Non, je l'adore. C'est l'accent de mon papa, c'est pas du tout pour me moquer. J'adore faire les accents et je trouve que j'ai voulu faire quelque chose d'extravagant pour le début de l'album et donc c'est pour ça que je l'ai pris.
On doit rendre hommage à votre papa, voilà. Parce qu'il est trop fort. C'est lui qui a trouvé le fameux mot pour résumer c'est l'album. Ça. Oui. Ecclesia, ça veut dire quoi, Ecclesia?
Ça voulait rien dire en fait. J'étais au téléphone avec lui, j'ai dit je veux un titre qui veut dire éclectique. Et il a dit Ecclesia. J'ai dit waouh, c'est trop beau. Et en Grèce ancienne, apparemment, c'est écrit différemment, mais ça voulait dire un rassemblement de gens et à l'époque et j'ai trouvé ça super parce que c'est ce que je veux pour mon album, que ça rassemble rassemble les gens.
Ça rassemble les continents, ça rassemble les langues. Voilà. Et ce matin, vous allez nous faire rentrer dans votre univers. Vous avez choisi d'interpréter le titre Soleil. Et c'est le seul titre qu'elle chante en français, figure-toi, Charline. Elle exagère. Alors, ce matin, juste pour se faire du bien au milieu de l'hiver, Naïka, le micro de France Inter est à vous.
Merci. Mais de qui ?
J'ai découvert l'amour avec un grand A. Je ne savais pas qu'avant toi je n'aimais qu'en minuscule tes lèvres, tes mots, ta façon de dire les choses comme elles sont. Ça me bouscule. On se rend fou, on verse les larmes, on se rend jaloux, puis on s'acharne. C'est ridicule, cet amour nous dépasse. Parfois j'ai peur qu'elle nous dévaste. Cette canicule, appelle-moi ton soleil. Quand je danse autour de toi, je brille. Je brille. Je promets d'éclaircir ton ciel. Pour que n'importe où tu ailles, tu brilles, tu brilles.
Que c'est beau,
oui, très très beau.
Je continue à avoir raconté votre histoire aux auditeurs qui ont entendu maintenant votre voix. Vous êtes née à Miami et vous avez grandi, je le disais, entre la Guadeloupe, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Vanuatu et la France. Mmh. Une enfance qui a changé de continent tous les 4 ans, comme nous, on changerait de quartier ou même juste d'étage. Mais si on fait un zoom, votre tout premier enregistrement, ça se passe à l'âge de 7 ans. Nous sommes au Kenya avec un professeur qui a deux passions, la musique et les insectes.
C'est ça.
Et il a décidé de transformer à l'époque votre classe en chorale.
Oui.
Il vous a emmené enregistrer un disque dans un studio de Nairobi.
Oui.
Il paraît que vous êtes toujours à la recherche d'ailleurs de ce disque, si jamais vous voulez lancer un appel pour le sampler aujourd'hui.
Oui, je le cherche. Non, mais c'était le disque qu'on a fait dans la classe, donc ce ne sera pas quelque chose de facile à trouver.
Ah, mais
peut-être.
On est très écoutés au Kenya.
On est très... Il y aura peut-être une surprise.
Peut-être.
Mais qu'est-ce que le son de ces insectes, de ces cris, ça provoque en vous?
Ah, ça c'est mon enfance, ces sons-là, ça fait plaisir d'entendre ça dans les oreilles à 7h du matin. Oui, c'est mon enfance et effectivement ce professeur il adorait les insectes, donc tous les lundis on allait dans sa voiture, il ouvrait le coffre et il sortait des nouvelles espèces d'insectes qu'on analysait et qu'on apprenait sur ça. Donc je connais pas très bien mes tables de multiplication, mais je peux vous dire tout ce que vous avez à savoir sur la menthe religieuse.
En tout cas, peu importe le pays où vous avez habité, vos parents ils écoutaient plein de musique du monde.
Oui.
Et vous y avez ajouté, normal, bonne adolescente, de la pop, Britney Spears, oui. Destiny Child, Michael Jackson, ou encore une passion débordante pour Bob Marley. Alors aujourd'hui, vous faites de la world pop et je vous ai proposé une carte blanche, une reprise. Mais j'étais hyper étonnée, vous m'avez proposé Aznavour. Pourquoi ?
Aznavour, c'est un de mes artistes préférés avec lequel j'ai grandi aussi. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça.
Alors,
en français aussi.
Alors Naïka, hier encore, le micro est
la bohème, la bohème.
La bohème ce
oui,
matin ?
Oui.
Génial, on y va.
Allons-y. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres, si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
On est bien,
merci.
Vous êtes passé par Berklee,
oui,
à Boston. C'est une des grandes, grandes écoles de musique contemporaine, les plus réputées d'ailleurs au monde. Là-bas, vous racontez que vous doutez beaucoup, que vous vous sentez un peu petite au milieu de ces musiciens incroyables, jusqu'au moment où quelqu'un dit que votre force, justement, ce sont justement vos racines multiples, votre identité composite. Et vous avez écouté ce conseil, cet album. J'ai pas le droit de tout vous faire écouter, ça sort le 20 février, mais il emprunte toutes les cultures par lesquelles vous êtes passé.
Oui.
Et quand on l'écoute, on se sent bien un peu partout, comme ça.
Boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind.
One-track mind.
Yes.
Fallait en parler,
ah,
de cette
oui.
femme qui reprend le contrôle.
Exactement, il faut. Non, je voulais faire, parce que ma maman est d'Haïti, alors je voulais faire un compas dans l'album et je l'ai mis en anglais. J'adore. Un truc qui me fait rire souvent des compas, c'est que c'est toujours un rythme ambiancé et puis il y a les paroles tristes dessus, pas tout le temps, mais ça arrive. Et donc je voulais faire ça aussi, avoir ce contraste des paroles et du de la track.
Alors quand je vous demande qui vous voulez épater, vous ne me parlez pas forcément de votre mère, mais vous répondez vous-même. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est votre engagement justement pour Haïti et pour l'éducation à Haïti à travers l'ONG Fleur de Vie qui construit des écoles. Et grâce à votre musique, justement, vous allez pouvoir reverser aussi et faire des dons à cet endroit. Tout ça pour Haïti. Est-ce que vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter?
Dédicace à mon papa qui est très... excited que je sois là aujourd'hui.
Alors, on embrasse votre papa. Elle s'appelle Naïka, N-A-I-K-A. Et vous pouvez tout simplement écouter son album à partir du 20 février. Et sinon, allez à l'Élysée-Montmartre le 5 mars si vous êtes à Paris, ou à la salle Playel le 8 mars.
Et moi, je voudrais remercier Marie Potier, Rémi Sistiaga, Maxime Goudard, qui sont nos techniciens et qui ont assuré la balance de Naïka, Étienne Bertin et Christophe Imbert à la réalisation, et puis toute l'équipe de la programmation, de la documentation qu'on embrasse, ainsi que nos standardistes. Un tout petit mot avec vous, Ali, du sujet qui nous attend après les infos. On est très en retard.
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce matin, on s'intéresse à l'hypocondrie. Comment mieux vivre ce trouble anxieux lié à la peur d'être malade? Racontez-nous les répercussions sur vos proches. N'hésitez pas à témoigner, nombreux, au 01 45 24 7000, au standard et sur WhatsApp, ainsi que sur l'appli Radio France.